19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Cash sur table ce soir, consacré aujourd'hui à un secteur clé de l'économie bruxelloise, l'Horeca. Les bars, les restaurants, les hôtels, autant d'acteurs qui façonnent, on le sait, la vie de nos quartiers, notre attractivité aussi touristique et bien sûr notre économie locale. Mais aujourd'hui, ils sont au cœur d'un débat majeur, les mesures Arizona, des réformes destinées à lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, à flexibiliser, on le sait aussi, le marché de l'emploi, qui suscite autant d'espoir que de critiques dans le secteur. Quels impacts donc pour les indépendants, pour les salariés, pour la compétitivité du secteur? Et pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Léonard, président de la Fédération de l'Horeca Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous, Ludivine de Magnanville, députée MR au Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Julie Lambotte, conseillère lobby Horeca chez UCM. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Arabelle pour ce Cash sur table. On va commencer, disons, avec une question d'ordre plutôt général avant de rentrer dans les détails. On va faire un petit tour de table pour, disons, un rapide état des lieux du secteur de l'Horeca, peut-être avec vous, Mathieu Léonard.
Bah, écoutez, je crois que le secteur Horeca sort d'une crise majeure depuis la crise sanitaire qui a entraîné une crise inflationniste sur les matières premières, une crise aussi sur le coût du travail puisque cette inflation a entraîné une indexation salariale supplémentaire, une crise énergétique, on l'a dit. Et donc tout ça aujourd'hui, eh bien, le secteur Horeca fort résilient a tenté de le résorber et aimerait ou attend, en tout cas, c'est un secteur qui est plutôt attentiste aujourd'hui depuis le dernier accord de gouvernement, attend du politique qui le soutienne de façon profonde, en l'occurrence sur la fiscalité sur le travail, mais également sur la fiscalité sur la consommation. Ça, c'est pour le niveau fédéral. Et puis, pour le point de vue régional, on pourra approfondir un petit peu plus tard, si vous le souhaitez.
Ludivine de Magnanville.
Oui.
Votre avis, donc,
rapide
état des lieux, disons.
Rapide état des lieux. Alors moi, il faut savoir que je suis toujours indépendante dans l'Horeca, donc oui. J'ai aussi ce pied dans la réalité qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. J'ai toujours aussi mes oreilles bien ouvertes, soit avec la Fédération Horeca, soit avec tous les indépendants que je connais et que j'ai côtoyés pendant des années. Alors effectivement, le secteur est attentiste, espère beaucoup de choses vis-à-vis du monde politique. Donc je suis assez fière d'avoir finalement deux ministres au fédéral qui peuvent éventuellement nous aider. Et ce qui pourrait être pas mal, c'est-à-dire ministre de l'économie et de l'emploi, David Clarinval, et Léonore Simonet, ministre des PME, qui concerne finalement 100% le secteur Horeca. Après, la fiscalité, effectivement, c'est autre chose, mais ça peut être un point plutôt positif. Et à la région, on attend toujours.
Voilà, Julie Lambotte, votre sentiment?
Oui, bah que puis-je ajouter par rapport au constat qui a déjà été dressé? Effectivement, l'Horeca, vous l'avez dit, c'est un secteur particulièrement important pour la vie économique en Belgique, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, qui a eu du mal ces dernières années. On le suit au niveau de la Wallonie, on le suit au niveau de Bruxelles aussi, et qui a bien besoin des réformes qui sont annoncées, qui sont dans le pipe au niveau fédéral. Au niveau Wallonie, il y a quelques réformes aussi. Et alors, que dire de Bruxelles? On attend, évidemment, mais les perspectives ne sont pas simples pour eux, pour l'instant.
Oui, je t'attends, cher gouvernement. Alors, on va aller un petit peu dans le détail, si vous le voulez bien. Une question ouverte à tout le monde. Est-ce que la crise du Covid, est-ce qu'elle a encore aujourd'hui des effets sur le fonctionnement du secteur? Et aussi, pour éclairer nos auditeurs, aujourd'hui, disons, quel type d'établissements sont les plus en difficulté et qui souffrent le plus? Peut-être Mathieu Léonard.
Alors, je vais reprendre les termes de Paul Dyer, qui est l'ancien président du tribunal francophone du commerce à Bruxelles, qui disait: on va vivre le backlash des faillites, le backlash de la crise du Covid maintenant, avec une succession de faillites jamais vues. Et on constate déjà, par rapport à des chiffres qui nous ont été fournis, que le nombre de créations d'entreprises Horeca diminue par rapport aux années précédentes. Et donc, non seulement les investisseurs sont beaucoup plus frileux aujourd'hui à se lancer dans ce marché-là, mais ceux qui exploitent aujourd'hui des établissements vivent un désarroi total parce qu'ils n'ont plus de cash flow, donc ils n'ont plus de trésorerie, ils ont vraiment tout perdu durant ces crises successives. Et donc, les secteurs qui sont le plus impactés, ce sont ce que j'ai tendance à appeler le milieu de gamme, c'est-à-dire 80% de la restauration à Bruxelles ou même en Belgique, c'est le restaurant de quartier, c'est la petite brasserie du coin, c'est des restaurants plutôt artisanaux qui vont essayer de fonctionner en circuit court, de manière locale, qui vont employer entre 5 et 10, un peu moins de 5 ou un peu plus de 5 équivalents temps plein. Donc ce sont toutes des petites structures, mais qui représentent aujourd'hui à Bruxelles 25 000 emplois. Et on pourrait encore en engager plus, mais c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on manque de main d'œuvre, mais on n'arrive pas à l'engager, c'est-à-dire quand vous l'engagez, elle vous coûte déjà trop cher, mais si elle n'est pas là, vous ne savez pas faire fonctionner votre entreprise. Et donc aujourd'hui, les exploitants de ce milieu de gamme ont peur d'augmenter leur prix. Ils ont peur d'augmenter leur prix parce qu'une des rares choses qui leur restent sont des salles plus ou moins remplies, vous voyez. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'on attend du monde politique des impacts très très forts, et que la fiscalité, au niveau fédéral évidemment, parce que ce sont des leviers fédéraux, alors qu'il y ait deux ministres compétents pour des matières directes qui font partie du groupe de Madame de Magnanville, c'est très bien, mais il y en a quand même quatre en tout au niveau fédéral, et la sécurité nous concerne aussi, et l'énergie nous concerne aussi. Et on part du principe qu'un accord de gouvernement avec tous les partis qui sont membres de cette coalition peuvent se pencher maintenant sur le désarroi des restaurateurs et des cafetiers et des hôteliers bruxellois.
Justement, Ludivine de Magnanville, est-ce que les charges sociales et fiscales sont toujours soutenables pour les indépendants de l'ORECA, pour vous par exemple, personnellement ?
Alors, non. Clairement non. Les indexations ont fait que aujourd'hui, finalement, je vais être honnête, quand j'étais dans la position de M. Léonard, je n'ai jamais combattu l'indexation. Parce que l'indexation était pour moi et pour les petites entreprises que nous représentions quelque chose d'assez important, parce que ça permettait finalement de maintenir un certain pouvoir d'achat. Là, j'ai une autre casquette aussi différente. Donc je comprends que l'indexation est importante, mais pour les entreprises, elle coûte de plus en plus cher. Et on doit arriver à un moment à trouver des solutions. Alors dans le PAC Arizona, il y a décrit, donc je ne pourrais même pas dire que c'est une promesse, parce que c'est écrit quelque chose de très clair par rapport aux charges sociales, c'est-à-dire qu'on doit trouver un système pour pouvoir alléger certaines entreprises. Donc les premiers éléments ne se sont pas fait attendre, c'est-à-dire l'élargissement des flexi-jobs, l'augmentation des heures étudiantes, pour pouvoir vite donner de l'oxygène en vue de cet été. Donc depuis quelques mois, on a déjà ça rapidement, mais on nous reproche de temps en temps d'aller trop vite en ce moment, par exemple avec la réforme sur l'allocation, stopper les allocations de chômage à partir de 2 ans. Donc on essaie de faire les choses petit à petit, correctement et bien, mais j'espère que c'est quelque chose, et en tant que chef d'entreprise et en tant que député, qui va arriver rapidement sur la table.
Mm-hmm. Julie Lambotte, votre sentiment sur ce package Arizona concernant le secteur ?
Il y a des mesures très intéressantes que nous avions demander, porter, et pour lesquels nous demandions effectivement qu'elle soit réalisée. Le zéro coti, ça, je pense que c'était un combat de longue date du CM, et on est ravis que ce zéro coti soit prolongé de manière indéterminée pour le premier engagement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demandait et que nous avons obtenu. Je pense que c'est important pour les...
C'est les cotisations sociales pour les premiers engagements.
Pour les premiers engagements, oui, pour le premier engagement. En l'occurrence, et il est très important, parce que notamment au niveau de l'ORECA, on a souvent des toutes petites structures et elles doivent engager le premier. Et cette mesure donc du zéro coti, donc de fait de réduction de cotisation, permet effectivement de passer le cap. C'est pas évident d'engager, et cette mesure est réellement une bouffée d'air pour. C'est pas suffisant, on est d'accord, mais c'est une bouffée d'air.
Une continuité, quoi.
Voilà. Et oui, en tout cas, que ce soit confirmé à titre indéterminé. Une autre chose sur laquelle, dans le package qui existe maintenant, c'est la baisse des coûts salariaux par l'action sur les bas salaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi-même, n'étant pas la spécialiste de ça chez UCM, c'est mon collègue Mathieu qui est spécialiste. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on attend, qui va être, qui est porté, qui se trouve dans la loi programme et qui devrait effectivement aider le secteur également. Autre chose, Madame de Magnanville l'a précisé, les flexi-jobbers. Et l'extension en fait, du nombre d'heures pour les étudiants. Alors, c'est quelque chose pour lequel... n'avait pas spécialement demandé. On est ravis que ce soit porté à 650 heures. Je pense que c'est vraiment une aide qui va... C'est un quick win, comme on dit. C'est quelque chose qui était facile à mettre en place. Et c'est quelque chose qui va réellement aider le secteur pour le moment. Alors, il y a encore d'autres choses qui devront être faites. Au niveau de la fiscalité, notamment, la question de la fiscalité sur les pourboires. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça mérite en tout cas d'être débattu.
On y reviendra sans doute tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Mathieu Léonard. Il y a pas mal d'établissements HORECA qui nous écoutent en ce moment et qui se posent la question. Comment justement votre fédération accompagne ces établissements pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre ?
Alors nous, on a mis l'accent... Je vais arrêter d'appeler Ludivine Madame de Magnanville parce que c'est complètement hypocrite. C'est mon ancienne présidente, je la succède et on se tutoie. Donc quand Ludivine était déjà à la présidence de la fédération HORECA, voilà, deal on deal. On avait déjà fait un focus à cette époque-là, on l'a renforcé maintenant. En tout cas, c'est une coopération entre les centres de formation, l'enseignement qualifiant. On essaye... l'enseignement professionnel en général. Toutes les institutions qui permettent à des personnes de sortir qualifiées et formées dans nos métiers, parce que c'est aujourd'hui un manque criant, hein, c'est-à-dire qu'on embauche à l'appel quand des gens se présentent chez nous, mais le plus gros problème, c'est que finalement, ces personnes ne sont pas formées. Donc on a des mécanismes grâce à Bruxelles Formation qui nous permettent de pouvoir former nos futurs travailleurs en étant exonérés de toute charge. Cela dit, les écoles feraient bien d'être un petit peu plus remplies. Et donc là, aujourd'hui, la politique qu'on mène, c'est de faire en sorte de rediriger la jeunesse, ou les moins jeunes aussi d'ailleurs, hein, les personnes qui sont dans une situation précaire ou sans emploi, se rediriger vers nos métiers. Et donc les effets sont plutôt bons ici, on a des bons résultats depuis 2 ou 3 ans, on espère que ça puisse encore continuer dans ce sens-là, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, nos métiers ne se limitent pas juste à porter une assiette ou couper des carottes. Donc ça va un petit peu plus loin que ça. Et donc moi, j'ai envie d'être optimiste en tout cas pour mon secteur et pour les établissements que je représente, c'est leur dire, en l'occurrence, on travaille sur la matière et ça vaut pour tout en fait, hein, pour tous. Je crois que c'est par l'enseignement et par l'éducation qu'on obtiendra les meilleurs résultats, quoi.
Alors c'est un secret de polichinelle, le travail non déclaré, monnaie courante parfois dans certains établissements. Est-ce que d'après vous, c'est une solution de survie ou c'est un vrai problème de fond à éradiquer?
Ouais, vous soulignez deux choses qui coexistent, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe, c'est que oui, ça doit être supprimé, parce que je crois que les gens, les exploitants, les patrons d'entreprise ont envie de dormir la nuit. Je crois qu'on ne peut pas s'enrichir sur du long terme avec de l'argent non déclaré. Je crois que ce n'est pas bon de payer son personnel avec de l'argent non déclaré, puisque les acquis sociaux ne sont dès lors pas respectés. On l'a vu durant la crise du Covid, je crois que l'HORECA peut faire son mea culpa. Je veux dire, si on a perdu autant de personnel aussi suite au Covid, c'est parce que certaines entreprises n'ont pas respecté les règles initialement et que des personnes qui étaient engagées sous contrat partiel se sont retrouvées avec moitié moins d'allocations de chômage, ce fameux chômage Covid. Donc on a notre part de responsabilité là-dedans. Cela dit, de toute façon, faire du payer en noir, faire du noir, ce n'est pas bon, ça vous tombera dessus un jour ou l'autre, mais le tout, c'est de pouvoir continuer à être rentable et aujourd'hui, nos marges sont tellement réduites suite à la succession des coûts et l'augmentation des coûts, que certains, pour des raisons finalement vitales, n'ont pas forcément le choix pour arrondir leur fin de mois.
Julie Lambotte, certains n'ont forcément pas le choix ou il faut quand même s'y attaquer de front?
Alors, il a soulevé effectivement le problème de cette question de la rentabilité du secteur de l'HORECA. C'est pas évident à l'heure actuelle de s'y retrouver. On a expliqué les crises successives que le secteur a dû affronter. Mais ça ne doit pas être une raison pour ce travail au noir, effectivement. Il faut lutter contre, parce que ça crée aussi une concurrence déloyale dans le secteur, et dans tous les secteurs, hein, ce n'est pas que le secteur de l'HORECA qui est confronté à ce problème de concurrence déloyale avec le travail au noir. Donc oui, il faut le régler. Oui, quand il y a du travail au noir, effectivement, il n'y a pas de création de droits sociaux. Mais peut-être que certains sont obligés de recourir à ce travail au noir parce qu'il n'y a pas suffisamment d'incitants pour ne pas y recourir. Le coût, la charge salariale, le coût salarial que représente d'engager quelqu'un, c'est énorme. Et donc, avec le peu de rentabilité que le secteur a, il se trouve confronté à ce choix cornélien. Oui. Mais je ne dis pas que je ne le défends pas. Donc, il faut trouver une solution structurelle pour le résoudre.
Oui, et puis, alors, je me permets d'ajouter quand même que depuis 2012, nous sommes branchés au SCE, donc c'est le système de caisse enregistreuse, cette fameuse boîte noire.
C'était ma prochaine question.
Désolé de vous court-circuiter là-dessus, mais je rappelle quand même qu'on est le seul secteur aujourd'hui à être branché à cette caisse blanche. Alors moi, ça ne me pose pas de soucis, ce n'est pas la question. Mais en termes d'équité, d'égalité, ce serait très hypocrite de croire qu'il n'y a que dans l'ORECA que des personnes utilisent ce mode de fonctionnement. Donc je crois que, et c'est ce que nous avions demandé, c'était par égalité, c'est qu'à un moment, finalement, tout le commerce de détail, tout le monde passe, alors soit on l'enlève partout, soit on l'installe partout. Mais aujourd'hui, un restaurateur ne va pas faire plus d'argent noir que du contraire, puisqu'il est branché à une caisse enregistreuse, que son voisin. Je ne veux pas citer les professions, parce que sinon je vais me faire lyncher, mais en l'occurrence, il y a plein de petits commerces de détail, de quartier, qui eux ne se gênent pas. Donc il y a un moment, je crois qu'il faut rééquilibrer les choses, quoi.
On a compris. Réaction de Ludivine de Magnanville.
Alors, vous savez que moi, j'étais l'ancienne présidente de la Fédération RECA et j'ai toujours dit au secteur et du secteur que pour être respecté, il fallait être respectable. Donc, je pense que j'étais une des premières à utiliser ce langage-là, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que tout soit déclaré pour pouvoir ensuite prouver que nous étions un secteur de valeurs humaines, sociales et finalement financières. Et donc, mon discours ne change pas, peu importe que je sois passée de l'autre côté ou pas. Et je suis ravie de voir que, finalement, Mathieu, elle continue d'avoir ce même discours. Après, dans l'accord de l'Arizona aujourd'hui, vous allez avoir cette obligation, finalement, d'avoir une caisse enregistreuse pour tous les secteurs. Donc là-dessus, on a été entendu en tant que secteur et on souhaite avancer là-dessus. On avait travaillé aussi à la Fédération sur ce qu'on appelait un accord de concurrence loyale, qui était un accord assez sain et plutôt bien fait entre les secteurs, donc monde patronal, monde syndical et les administrations. C'est-à-dire dire, en fait, aujourd'hui, travailler de manière souterraine, illégale, avec du black, on peut l'appeler comme on veut, ça empêche un certain nombre de choses vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis d'une entreprise qui doit gagner sa vie et mettre de l'argent de côté. Et donc, j'avais participé à ça et c'était quelque chose qui était assez important pour moi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit, en tant que pouvoir politique, ne pas avoir les yeux fermés vis-à-vis de ce qui se passe, parce que le black a augmenté depuis le Covid. Faut dire les choses telles qu'elles sont. En fait, après la crise énergétique, les gens se sont retrouvés avec des factures énormes, plus du tout de trésorerie, et donc n'arrivaient plus à se payer. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que beaucoup ont recommencé des pratiques, finalement, qui dataient d'il y a plus ou moins une dizaine d'années, pour que le patron puisse se payer lui. Donc, c'est quelque chose qui a existé, qui existe et qui revient. Donc, maintenant, il faut faire attention à... OK, ça revient. Il faut pouvoir voir les choses, pas faire l'autruche et arriver à des solutions plus claires.
Voilà, Ludivine de Magnanville, Julie Lambotte, Mathieu Léonard, restez avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après.
19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités, Ludivine de Magnanville, députée au Parlement bruxellois du parti MR, Julie Lambotte, conseillère lobby Bruxelles chez UCM, et Mathieu Léonard, président de la Fédération de l'ORECA Bruxelles. Julie Lambotte, on poursuit notre entretien, si vous le voulez bien. Est-ce que l'UCM constate aujourd'hui une perte de confiance entre, disons, les administrateurs, et les entrepreneurs et l'administration ?
Alors, je dirais pas une perte de confiance en tant que telle, je parlerais plutôt d'un ras-le-bol généralisé.
Carrément.
Par rapport à la complexité, par rapport à la lourdeur des procédures administratives. C'est très compliqué d'avoir un permis, c'est très compliqué d'avoir une autorisation, c'est très compliqué, tout est extrêmement compliqué, il y a des contrôles à n'en plus qu'en faire. Donc je dirais pas que c'est un manque de confiance, mais plutôt un ras-le-bol par rapport à tout ce qu'on demande. Donc il y a chaque fois des couches, on rajoute chaque fois une couche de complexité. Et ça vaut pour tous les secteurs, ça vaut pour l'ORECA, mais ça vaut pour d'autres aussi. Et donc je pense que c'est plutôt ça. Donc c'est pas qu'ils ont plus confiance, mais c'est un ras-le-bol. Et aussi le fait que les administrations n'assument peut-être pas non plus les décisions qu'elles prennent. Je suis passée récemment dans la rue, je sais plus si c'est la rue du Renard ou des Renards, entre rue Blas et rue Haute à Bruxelles, et j'ai été interpellée par toutes ces affiches qui étaient collées sur les restaurants du coin, commerce à remettre. Mais je me suis dit non, pas tous ces commerces quand même. Et alors je voyais commerce à remettre, adressez-vous à Sibelga. Commerce à remettre, adressez-vous à la ville de Bruxelles.
À Vivacois.
Commerce à remettre, adressez-vous à Vivacois. Donc Je suis rentrée, c'était un dimanche, je travaillais pas, mais enfin, quand même, je suis rentrée dans les commerces et j'ai posé la question. Et effectivement, ils avaient été prévenus quelques jours avant qu'il allait y avoir d'énormes travaux dans cette rue piétonne, que tout allait être coupé, plus d'eau, et donc impossible de faire tourner un restaurant sans indemnisation, sans être prévenu à l'avance, donc sans moyen de s'organiser. Donc c'est plutôt... quand j'ai discuté avec la restauratrice, elle ne me disait pas « j'ai pas confiance ». Mais elle disait, j'en ai marre qu'on ne nous prévienne pas, qu'on nous dise à l'avance, qu'on puisse s'organiser. Ils ont fait des travaux dans une rue un peu plus haut en plein hiver. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ces travaux-là en plein été, alors que notre rue, ils font les travaux en été et qu'on a des clients et que c'est la pleine saison. Enfin voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc je ne dirais pas que c'est une perte de confiance, mais plutôt un ras-le-bol.
Disons, la réglementation donc, est clairement en décalage par rapport à la réalité des indépendants.
Tout à fait.
Elle est non seulement en décalage, mais en plus, elle n'assume pas ce qu'elle met en place. C'est-à-dire que
elle
l'assume mal. Mais écoute, il y a un moment, moi je vais rejoindre Julie, c'est... Lambotte dit qu'il n'y a pas de mécanisme de compensation ou d'indemnisation. Alors, il en existe en région bruxelloise. On a la prime chantier, elle existe. Mais alors, elle est d'un ridicule. Je veux dire, elle atteint des sommets de 1 875 € qui est multipliable en fonction... Déjà, pour remplir le dossier, bonjour, vous tirez les cheveux.
Pour les commerçants de la gare du Midi, par exemple, les travaux, effectivement.
Mais ça ne comble même pas votre loyer, quoi. Je veux dire, c'est une vaste blague, ces indemnisations.
Dans la zone piétonne, ils n'y avaient pas droit.
Voilà, oui,
c'est parce que c'est une zone piétonne.
Exactement.
Donc ils fermaient la zone piétonne, mais ces restos ont des petites terrasses, on leur accède dans la zone piétonne, et ils n'avaient pas droit à l'indemnisation.
En fait, l'absurdité de la situation, c'était surtout que personne à un moment s'est posé la question de tiens, nous allons fermer une rue piétonne avec des commerces, des terrasses, des étals, parce qu'il n'y a pas que des terrasses Horeca, il y a aussi des étals, et on fait ça... juin, juillet, août, parce qu'en plus on sait que ça devait finir en juillet et probablement ça allait pousser jusqu'au mois d'août. Et donc c'est effectivement, il manque cette espèce de compréhension et d'expertise finalement du terrain. Et ça, c'est, je le vois tous les jours de temps en temps.
Et les impétrants sont ingérables. Proximus, Vivaqua, Sibelga, je veux dire, ils sont même pas sous l'autorité des communes ou de la région. C'est ça qui est terrible. Ils font ce qu'ils veulent. Hein.
Et dans ce quartier-là, puisqu'on continue à parler de ça et des impétrants, effectivement, la dame m'expliquait que bon, il y a ce chantier-là, Vivaqua maintenant, mais alors il y en a un deuxième qui va commencer au mois de juillet, si j'ai bon souvenir, et il y en a un autre qui va recommencer au mois d'octobre.
Ouais,
il y a un moment, est-ce qu'on peut pas essayer d'avoir cette coordination entre les différents impétrants, entre les différentes administrations bruxelloises? Pour pouvoir gérer au mieux ces cas-là.
Alors ça, c'est pour le constat. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec donc cette nouvelle majorité?
Alors, nouvelle majorité, au niveau bruxellois, pour le moment, on la cherche toujours.
Oui.
On a fait des propositions, justement, on a publié et distribué une DPR, donc une déclaration politique régionale la semaine dernière, teintée de bleu qui n'attend plus que... certains viennent avec des remarques, des amendements. Teintés de bleu, je dis parce que, effectivement, en tout cas, tout ce qui a concerné les passages économie, emploi, indépendant, entreprise, oui. Ben, j'y ai contribué avec beaucoup de fierté. Et c'est un point qu'on a soulevé, tout comme le droit à l'erreur, par exemple, qui est sorti au niveau fédéral et qui, maintenant, on aimerait bien... qui soit côté régional. Après, je parle avec des si, parce que si nous n'arrivons pas à trouver finalement adhérents vis-à-vis de ce qu'on propose, on s'est mis à nu sur 80 pages, et pour le moment, on n'a pas encore vraiment de majorité pleine et convaincue pour arriver à un gouvernement qui puisse soutenir les entreprises, l'économie, l'emploi en région bruxelloise.
Alors justement, ça fait presque un an que ça dure. Alors pour ces établissements, chacun pour soi, où on met la clé sous le paillasson, est-ce que les hommes et les femmes politiques ont réellement conscience du problème?
Alors, vous vous adressez à la mauvaise personne, si je puis dire. Excusez-moi de vous dire ça, mais moi, je suis quotidiennement baignée dans ce monde économique. Je pense que depuis que je ne suis plus présidente de la Fédération, je dois avoir Mathieu... plus que régulièrement au téléphone. Julie, donc on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises. Donc on avance sur des petits projets qui sont assez... Et c'est petit parce que c'est dans le cadre finalement d'un gouvernement en affaires courantes, comme les terrasses, comme les chaufferettes, comme des choses qu'on arrive à faire et qui, alors grâce peut-être aussi à l'excellent travail de Mathieu. Mais,
ça c'est bien ça, oui.
Bah oui, attends, quand même. Tu continues d'être mon président, j'ai toujours un restaurant, donc il faut que je fasse attention. Grâce à l'excellent travail de Mathieu, on arrive avec des textes finalement au Parlement qui trouvent une adhésion quasiment à l'unanimité parce que tout le monde fait attention au secteur HoReCa, tout le monde fait attention à l'économie. Moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est qu'on a déposé une déclaration de politique régionale la semaine dernière, que le Parti Socialiste a déposé une note de 7 pages. J'ai lu cette note parce que j'ai eu accès. Pas un moment, on parle de l'écosystème économique. Comme si c'était des gros mots. On n'a pas le droit d'utiliser, de dire que nous avons des entreprises en région bruxelloise, que nous devons les respecter, que nous devons les faire grandir, que nous devons les aimer. Là, je n'utilise pas des mots qui sont vulgaires, mais comme si ce mot-là était presque interdit. Mmh. Pas une seule fois dans les 7 pages. Donc, je suis désolée, mais... Nous devons faire attention à ça, parce que c'est bien d'avoir des administrations et de les faire tourner, mais si à un moment on ne pense pas au poumon finalement économique de cette région, on ne va pas y arriver en fait.
Mathieu Léonard, il y a donc urgence, on est à l'orée de l'été, sachant que les restaurateurs et les cafetiers font l'essentiel de leurs recettes cet été, il n'y a toujours pas de gouvernement.
Non, alors est-ce que, pour être très honnête avec vous, est-ce que je crois qu'on l'aurait plus payé si on n'avait pas eu de gouvernement fédéral. Parce que les mesures d'urgence, nous concernant, se situent vraiment au niveau fédéral, en l'occurrence sur l'emploi, les grands thèmes économiques et sur la fiscalité et sur la flexibilité de l'emploi. Maintenant, au niveau régional, effectivement, on a parlé, la formation pour nous est super importante. La remise à l'emploi est super importante. On a beaucoup trop de demandeurs d'emploi dans cette région. On a des grosses machines qui font fonctionner beaucoup de choses, mais on ne sait pas à quoi elles servent. On n'est même pas reconnu, nous, en tant que secteur, en pénurie de main-d'œuvre. Et donc, à un moment, il y a tous des mécanismes qu'on aimerait bien mettre en place, des mécanismes de reconnaissance, pas pour qu'on gratte des sous, hein, c'est pas ça l'histoire, c'est pour qu'on soit soutenu et qu'on puisse guider les gens vers nos métiers. Et donc, le fait de ne pas avoir de gouvernement à Bruxelles empêche toute réforme de l'administration, une administration qui est, comme l'a dit Julie, contrôlante, lente, pas toujours aux côtés des entrepreneurs. Je ne parle pas de toutes les administrations, mais je trouve que la proposition du droit à l'erreur est excellente au niveau fédéral et qu'elle, si elle peut être appliquée à Bruxelles, elle est tout aussi excellente. Je veux dire, on n'est pas des comptables où on ne sort pas tous de l'ICHEC ou de Solvay, quoi. Mmh. La majorité des patrons de l'HoReCa, ce sont des ouvriers qui ont eu accès, à un moment ou à un autre, à la direction de leur propre entreprise. C'est ça, hein, ça c'est 60 à 80% du secteur, c'est ça. C'est des gars qui ont bossé dur et des femmes qui ont bossé dur pour accéder à ça. On n'a pas tous fait des grandes études. Et donc, quand on lit la littérature de l'administration aujourd'hui, il y a vraiment de quoi devenir fou. Donc oui, il faut réformer ça, et il faut réformer la mobilité, il faut apporter plus de sécurité, et il faut apporter plus de propreté, mais il faut aussi aider...
Ça tombe bien, c'est dans nos 80 pages.
Bien sûr, mais il ne faut surtout pas oublier tout le milieu associatif qui aujourd'hui peine à pouvoir être subsidié. Et donc voilà, il faut, je crois que tout le monde doit s'y retrouver, et aujourd'hui on est un petit peu orphelin, quoi.
Votre sentiment, Julie Lambotte ?
Oui, c'est compliqué en fait. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'un an après, on soit encore en train de discuter et qu'est-ce qui va se trouver dans une DPR au niveau bruxellois, parce qu'on avait toujours l'habitude d'être les premiers, donc d'être les meilleurs de la classe, et ce n'est pas le cas ici. Donc effectivement, on a beaucoup de retours d'entreprises, tous les secteurs confondus, qui commencent là... Elle a trouvé un peu longue. Alors, elles continuent à fonctionner parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles doivent survivre, mais ce n'est pas évident tous les jours. Il y a une incertitude, il n'y a pas de cap clair sur ce que va être le programme du prochain gouvernement. Et je pense que c'est ça qui complique les choses. On ne sait pas, en termes d'investissement, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas, est-ce qu'on sera aidé pour le premier engagement, est-ce qu'on ne le sera pas, est-ce qu'on va être aidé avec des travailleurs qui vont pouvoir se former et conserver leur allocation de chômage, parce qu'il y a une grosse réforme, vous le savez, sur la fin des allocations de chômage après 2 ans, avec des possibilités de dispense si on est dans certains parcours de formation, mais est-ce que les formations que les travailleurs... qui pourraient travailler chez moi vont bénéficier ou pas de cette dispense. On ne sait pas. Bref, c'est un flou artistique pour le moment. Et ça devient compliqué, en fait. Et je pense qu'il y a un moment, les entreprises, elles ont le dos dur. Donc, il y en a qui résistent pas et qui font faillite, mais je pense que c'est aussi lié au reliquat des problèmes Covid et de la crise énergétique. Mais là, il va commencer à y avoir de plus en plus de sociétés qui vont dire « moi, je reste pas ici ». Je ne peux plus, j'ai besoin d'un cap clair, je ne sais pas si je peux investir, j'ai plus d'argent, je ne sais pas si je peux engager, etc. Donc il y en a de plus en plus qui vont partir et c'est ce qu'on entend. Hein.
Mm-hmm. C'est une crainte, Mathieu Léonard, de voir pas mal de petites boîtes choisir d'autres horizons.
Alors c'est pas que c'est une crainte, c'est que c'est déjà le cas. Hein, vous voyez, quand on parle des faillites et qu'on parle du développement des grandes chaînes et des fast-food, c'est très simple. Les petites boîtes sont en train de s'étaler et elles laissent leur place aux grosses boîtes. Et les grosses boîtes, c'est pas que des restaurants liés, hein, c'est pas un groupe où il y a 4, 5, 6 restaurants. Non, on parle de grandes chaînes qui, elles, ont une trésorerie de malade, qui ont des capacités financières que n'a pas du tout un patron de TPE ou de PME, qui se pointe et qui dit « je rafle la mise, moi je peux même acheter le bâtiment, il n'y a pas de problème ». Et donc on est en train d'aseptiser complètement notre secteur et on offre des choses identiques partout dans des endroits qui se ressemblent. Alors, si c'est ça la restauration de demain et le monde du café de demain ou le monde de l'hôtellerie de demain, franchement, moi, en tant que citoyen, même pas en tant que chef d'entreprise ou représentant d'un secteur, mais j'ai pas envie de rester à Bruxelles. Où est-ce qu'il est, mon petit restaurant de quartier mon petit café de quartier qui peut traîner jusqu'à 1h ou 2h du matin ? Alors, c'est ça aussi, hein, c'est toute la sécurité d'un quartier, c'est le vivre ensemble, c'est des endroits où les gens se retrouvent, où il y a les communautés qui se créent. Et donc, on est en train, je le disais tout à l'heure, d'aseptiser réellement notre secteur si on ne fait pas quelque chose, parce que non seulement l'entrepreneur risque de quitter le territoire, mais le citoyen tout autant. On a des citoyens avec du pouvoir d'achat intéressant aussi, quoi. Donc, si on ne lutte pas contre la paupérisation de certains de nos quartiers ou de certaines de nos communes, on va s'enfoncer dans un espèce de drame économique et social, mais qui va arriver, mais alors à une vitesse plus rapide qu'on ne le croit.
Alors, Martin, une dernière courte pause avant la dernière ligne droite de Cash sur Table pour faire un nouveau tour d'horizon.
Jusqu'à 20h, c'est Cash sur Table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités pour cette toute dernière ligne droite de votre Cash sur Table. Mathieu Léonard, président de la Fédération de l'Horeca Bruxelles. Julie Lambotte, conseillère lobby Bruxelles chez UCM. Et Ludivine de Magnanville, députée au Parlement bruxellois du parti du MR. Justement, on va parler un petit peu du MR si vous le voulez bien. Est-ce que votre parti soutient donc cette baisse des charges pour les indépendants de l'Horeca, tant réclamée ? Est-ce qu'on peut, disons, envisager par exemple une réforme fiscale uniquement dédiée au secteur de l'Horeca ?
Alors, uniquement dédiée au secteur de l'Horeca, ça va être un tout petit peu compliqué. Il va falloir pouvoir trouver, parce qu'on peut vite avoir des problèmes de concurrence loyale, déloyale, et être attaqué finalement au Conseil d'État. Donc ça, je pense que ce n'est pas faisable. Après, il y a une grande réforme fiscale qui est censée arriver, qu'on avait attendue il y a déjà 2 ans, qui n'était pas arrivée. Et donc je pense qu'il y a une uniformisation des taux de TVA qui doit être fait. Et si à un moment, l'Horeca doit être récompensé, si je puis dire, d'une manière ou d'une autre, on y pensera plus que certainement. Ça, c'est évident. Après, on ne fera pas d'exception. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on doit valoriser, c'est nos entreprises locales. Finalement, et là, je désolé Mathieu, je ne vais plus prêcher pour ta paroisse, mais qu'est-ce que si on se dit qu'aujourd'hui on met un coiffeur, la boîte noire, donc à un coiffeur, à un boulanger, à un charcutier, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui on ne peut pas lui baisser sa TVA ou ses charges sociales à hauteur, qu'est-ce qui vaut plus ou moins qu'un établissement Horeca ? Ça, je ne trouverais pas ça très juste, pour être honnête.
Une réaction, Mathieu Léonard ?
Je trouve qu'il y a déjà une injustice, finalement. Nous sommes les seuls branchés à ce système de contrôle.
Qui va être réglé.
Oui, non, mais bon, ça va venir, on connaît. Je veux dire, ça fait 1 an qu'on attend un gouvernement à Bruxelles, on attend de voir venir les autres mesures au niveau fédéral. Alors, je vais être optimiste et confiant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà une forme d'injustice, ou en tout cas une forme d'absurdité. Et je ne suis pas certain que vos auditeurs soient bien au courant, mais quand ils commandent une bouteille d'eau à table dans un restaurant, ils payent un taux de TVA de l'ordre de 21%. C'est-à-dire que quand vous leur vendez une bouteille d'eau, il y a près d'1 euro qui repart directement au trésor public. Moi, ça m'a coûté 1 euro, cette bouteille, il me reste 3 euros. Et quand vous venez manger à 2 à table avec une bouteille d'eau et vous achetez chacun un plat, vous prenez un plat, mais rien que sur l'eau, je vais gagner 1,50€ par tête de pipe, c'est ma marge brute. Je gagne rien, moi, là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on nous fait payer 21% de TVA sur de l'eau alors qu'elle est à 6% quand vous la commandez dans un fast-food à emporter ou vous l'achetez dans la grande distribution ? Aujourd'hui, on veut être vertueux, on parle de santé publique. Et on nous taxe encore l'eau et toutes les boissons non alcoolisées à 21%. C'est un véritable scandale. Et donc moi ici, je trouve que c'est une mesure qui est plutôt vertueuse, qui nous permettra de récupérer une marge de 15% sur l'ensemble de ces produits. Et on sait qu'il y a de plus en plus de consommation vers les produits non alcoolisés. Et c'est très bien et c'est tant mieux. Mais il y a un moment, si on veut une bouffée d'air frais, c'est en diminuant la taxation sur la consommation. Je veux dire, c'est le seul levier qui nous a permis, durant le Covid, de immédiatement récupérer de la trésorerie. C'était de diminuer la taxation sur la consommation. Donc aujourd'hui, nous, ce n'est pas une supplique, mais en l'occurrence, ça fait des années qu'on parle de ça, et ça faisait partie du combat de Ludivine aussi, durant son mandat en tant que présidente, c'était de dire au précédent gouvernement Vivaldi, c'est on a besoin d'aide et on a besoin d'air frais maintenant. Donc diminuer cette taxation, parce que c'est plutôt une mesure vertueuse. Donc voilà, nous on est attentifs là-dessus, on espère vraiment que le mouvement réformateur, ainsi que les quatre autres partis, pourront nous soutenir dans cette démarche. Et c'est urgent.
La nouvelle réforme fiscale, oui.
Julie Lambos,
il n'y a pas de raison.
C'est important, donc c'est une des priorités, donc baisser les charges pour les indépendants de l'ORECA.
Baisser les charges pour les indépendants. Point. Je suis désolée.
Et entre autres l'ORECA.
Mais dans les indépendants, il y a effectivement l'ORECA. Voilà. Mais on ne peut pas défendre, et là je soutiens effectivement ce que Ludivine disait, on ne peut pas défendre qu'un secteur. On est une organisation interprofessionnelle, on représente différents secteurs, et effectivement il y en a d'autres qui souffrent aussi. Et donc nos combats, ils sont menés pour tous les secteurs. Mais oui, on travaille dessus, on a nos spécialistes qui travaillent sur cette réforme fiscale. Donc oui, il y a besoin d'une réforme.
Alors, je voulais juste préciser, c'est-à-dire que cette baisse de la TVA, ce n'est pas un cadeau qu'on demande, hein. Ce n'est pas une espèce de récompense. Quand vous commandez une pizza dans un établissement, le gars, il a moins de charges. Hein. La personne qui exploite son établissement, il a moins de charges, il a moins de personnel. Il y a juste une mobilette qui vient chercher la pizza et qui vous la livre. Vous aurez commandé un soda avec. Eh ben, tout ça est taxé à 6% de TVA. Venez manger dans mon restaurant, mon plat va être taxé à 12% et ma bouteille d'eau que je vais vous vendre va être taxée à 21%. Il y a un déséquilibre total alors qu'on est pourvoyeur d'emploi, on est pourvoyeur on tâche de maintenir un certain niveau d'excellence dans le service, et donc on forme des gens, et c'est pas des emplois précaires, du flexi-job ou du simple travail étudiant, non, ce sont des gens qui ont probablement des bouches à nourrir, et donc nous on a toujours existé, il y aura toujours des auberges, des restaurants et des cafés, j'imagine toute notre vie et au-delà, et donc j'espère qu'on puisse être considéré là-dessus. Moi je trouve qu'il y a un parfait déséquilibre entre des petits endroits qui ont des économies d'échelle, qui font des économies d'échelle hallucinantes, avec peu de moyens ils font plein de blé, nous avec énormément de moyens on en fait de moins en moins du blé, et donc il y a un moment il va falloir qu'on nous aide et qu'on remette de l'eau dans le moulin, quoi. C'est simplement ça.
On a parlé tout à l'heure de beaucoup de sociétés, d'entreprises en difficulté. Est-ce que le MR, je m'adresse bien sûr à vous, le Divine Manuel, est-ce qu'il serait favorable par exemple à une amnistie partielle pour régulariser certaines situations qui semblent, disons, politiquement acceptables?
C'est-à-dire, alors je vais vulgariser votre question.
Voilà,
c'est-à-dire que vous êtes en train de me demander si quelqu'un qui faisait du black ou du noir, s'il était pris la main dans le sac, parce que ça fait quelques années qu'il en fait et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une fraude finalement, on serait pour ou contre une amnistie et dirait, ben voilà, si tu branches ou un compromis, ou si tu branches ta caisse. Alors, je vais parler à titre personnel, parce que ce ne sont pas des questions habituelles. À titre personnel, moi, je serais contre. Je serais contre pour une chose, parce que je pense qu'aujourd'hui, les fédérations, et là, je vais parler de l'ensemble, sont assez claires sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, et c'est là où rentre le droit à l'erreur, c'est que si à un moment il y a un comptable, tu viens d'ouvrir ton entreprise, il y a un comptable qui te dit mais non, tu n'as pas besoin d'avoir la boîte noire ou tu n'as pas besoin d'avoir telle ou telle accréditation pour pouvoir ouvrir, livrer, et que là il y a vraiment une erreur qui a été faite, rapidement détectée et facilement, on ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, oui. Là je pense que le cadre de ce droit à l'erreur doit rentrer. Par contre, quelqu'un qui fraude délibérément, qui paye une partie de son personnel au black, non, ça, je suis désolée, même moralement, je ne pourrais pas l'accepter.
Julie Lambotte.
Pareillement, moi, je ne vais pas me prononcer au nom du CEM parce que je n'ai pas le retour par rapport à cette question-là. Donc, uniquement à titre personnel, je trouve qu'effectivement, l'approche de Ludivine est assez bonne. Hein. Si, effectivement, on commet une erreur et que, voilà, on n'a pas enregistré un paiement alors qu'il devait se faire ou qu'on n'a pas déclaré correctement et que c'est vraiment une erreur, ce droit à l'erreur, on l'a défendu, on l'a porté et donc on est pour, évidemment. Donc, oui, une régularisation. Si c'est une fois, pourquoi pas. Maintenant, au-delà de ça, on peut pas le soutenir. Ça crée une concurrence pour nous, en tout cas. C'est mon avis personnel, une concurrence totalement déloyale entre les entreprises qui, elles, jouent le jeu et d'autres qui ne le joueraient pas. Et donc, moi, perso, mais ça n'est pas la position du CEM. Peut-être que ça l'est, mais en tout cas, c'est la mienne ici.
Mathieu Léonard, un mot sur le sujet.
Mais oui, mais vous ressortez une chose. En fait, ça a fait l'objet d'un article dans Le Soir, cette histoire. C'est moi qui l'avais dite. J'avais parlé d'amnistie. Ça a été d'ailleurs relativement mal interprété par certains médias à l'époque. Ça date d'il y a un an et demi. J'avais simplement dit que je proposais toute une série de mesures fiscales, d'allègements fiscaux, en l'occurrence pour les entreprises en récap, une obligation de se brancher à la boîte noire pour tout notre secteur, parce qu'en l'occurrence aujourd'hui il n'y a que les établissements qui offrent de la restauration à consommer sur place à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires qui doivent être branchés, 25 000 euros par an. Et donc j'avais proposé toute une série de mesures fiscales et d'accompagnement en disant voilà très bien, je voudrais également, puisque tout le monde va être branché, forcément on va déclarer nos chiffres d'affaires réels. On connaît l'administration, moi je connais l'administration fiscale, elle va regarder, ah ben en 2024 ou en 2025, vous avez été branché à la boîte noire, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, et en 2023, vous en avez déclaré de 50 000. Donc vous faites du 200% depuis que vous êtes branché. Et donc moi, ce que je suggérais, c'est-à-dire, pour faciliter les choses, on déclare plus de chiffre d'affaires parce qu'on est branché à la boîte noire, mais il y a une amnistie sur tout ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire de juste dire, on fait table rase du passé, et on recommence à zéro pour avoir un secteur tout blanc, et donc où il n'y a plus à ce moment-là de droit à la fraude, pas du droit à l'erreur, du droit à la fraude, parce que l'administration fiscale tout un temps a pu aussi être un peu plus souple en fonction des dossiers qu'elle avait en face d'elle. Donc voilà, c'est un peu retrouver l'équilibre et l'égalité pour tous, mais en faisant table rase du passé, et donc donner, nous, en tant que fédération du secteur ORECA, certains engagements et certaines garanties à ce que tout le monde respecte les règles du jeu.
Oui, une caisse blanche, mais plutôt une caisse bien transparente. Alors il nous reste quelques minutes avant de nous quitter. Une question d'ordre général, à quoi pourrait ressembler le secteur de l'ORECA d'ici quelques années si on ne fait rien? On a parlé bien évidemment tout à l'heure de cette désertion possible, mais bon, comment imaginer le secteur des bars, des restaurants, des cafés à Bruxelles sur les prochaines années?
Je vais rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, il faut conserver cet artisanat, ce petit entrepreneuriat qui est hyper inclusif, qui est ultra multiculturel, qui ne fait pas de différence de genre, qui ne s'occupe pas de ce genre de choses, parce qu'en fait, ce ne sont pas nos préoccupations. Notre préoccupation, c'est d'accueillir tout le monde chez nous, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, ce qu'ils représentent, peu importe. Et c'est une richesse culturelle au-delà d'une richesse économique. Et c'est la force de Bruxelles, et on aimerait bien que ça soit maintenu. Et donc, moi, j'ai de sérieux doutes. Je ne suis pas super optimiste, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on maintienne ça.
Julie Lambotte, qu'est-ce que vous direz à un indépendant qui veut se lancer un restaurant aujourd'hui à Bruxelles, mais qui hésite encore justement à cause de tout ce qu'on a dit maintenant, toutes les contraintes?
Attends le prochain gouvernement.
Bon, il peut attendre alors.
Non, en tout cas, la couleur.
Ouais, je lui dirais courage, mais je lui souhaiterais bonne chance aussi. Courage, pourquoi? Parce que ce n'est pas évident, en fait, de se lancer comme entrepreneur dans l'ORECA. Donc, je pense que s'il n'est pas prêt à affronter tous les défis qu'il va devoir affronter, bah, qu'il laisse tomber. Mais par contre, s'il est prêt à le faire, qu'il y aille, mais qu'il se fasse accompagner. Parce que ce n'est pas évident de se lancer tout seul. Mathieu l'a dit tout à l'heure, effectivement, tout le monde n'a pas un diplôme en gestion pour se lancer. Donc, qu'il se fasse accompagner. Il y a des organismes qui aident, la Fédération ORECA Bruxelles, UCM aussi. On aide pour se lancer, pour que le projet tienne la route. Voilà.
Alors, Ludivine de Magnanville, dernière question. À quoi pourrait donc ressembler ce secteur de l'ORECA, un ORECA belge, disons, durable, à la fois légal, rentable et attractif?
Alors déjà, durable et rentable, je pense que ce sont des mots qui aujourd'hui ne peuvent plus être vraiment dissociés. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se sont rendus compte que pour être rentable, le durable aide. Donc ça, je pense que c'est ces deux mots qu'on ne doit plus dissocier. À quoi finalement... Quel va être notre paysage économique et horeca dans 10 ans? Je ne sais pas. La seule chose, et je pense que c'est notre devoir à nous en tant que pouvoir politique, c'est de maintenir l'humain et le savoir-faire. On est aujourd'hui un secteur qui est à haute valeur humaine ajoutée. C'est-à-dire que finalement, très très peu d'hommes et de femmes sont remplaçables par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle. On apporte des outils au secteur qui permettent de développer leur potentiel, mais pas remplaçables. Aujourd'hui, être servi par un ordinateur qui vient d'apporter tes sushis, je suis désolée, c'est rigolo pour la photo, mais est-ce que tu y retourneras? Il te manque quelque chose? Beaucoup, pendant un moment, il y avait pas mal d'iPads pour prendre ta commande et ton menu. Bah finalement, ce sont des choses qui ne restent pas dans ce secteur-là. Donc moi, je suis une positive et je pense qu'on n'arrivera pas à enlever cette haute valeur humaine. Mais ça, ça doit être notre job à nous en tant que pouvoir politique, c'est-à-dire pouvoir se dire que l'entrepreneur n'aurait pas le choix. C'est vraiment, c'est former à un savoir-faire, à l'artisanat, à peut-être mieux aussi orienter des jeunes. Parce que aujourd'hui, c'est pas très chic, c'est pas très joli de dire à papa ou maman, moi ce que je voudrais c'est être chef de cuisine ou alors faire le service derrière un bar. En fait, ça fait pas rêver. Donc je pense que c'est ça notre job, c'est de pouvoir continuer de faire rêver pour que les gens puissent adhérer à nos secteurs.
Voilà, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais malheureusement, c'est la fin de ce Cash sur table. Ludivine de Magnanville, députée au Parlement bruxellois du MR, bien évidemment. Julie Lambotte, conseillère lobby Bruxelles chez UCM, et Mathieu Léonard, président de la Fédération de l'Horeca Bruxelles.
Merci beaucoup.
Merci, messieurs, dames, pour vos analyses, et merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Cash sur table. Excellente soirée à tous.
Merci.